Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
It is.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all, that's all.
On retrouve aujourd'hui dans Cast une des jeunes femmes parisiennes les plus inspirantes de sa génération. Pour sa détermination à faire bouger les lignes et son refus de compromettre qui elle est. Directrice créative derrière les dernières campagnes de Jean-Paul Gaultier, influenceuse de goût et entrepreneuse dans la modeste fashion, c'est un plaisir de recevoir aujourd'hui Taqwa Bintali.
Bonjour Taqwa.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Trop content. Trop content, ça fait un moment qu'on en parle, on est trop content que tu sois enfin là avec nous. Tu es une dame très occupée.
C'est busy, c'est busy.
Non, mais on est super content que tu sois là. Écoute, on commence comme tous les épisodes avec une question ouverte. Tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu fais.
Ça marche. Alors, je m'appelle Taqwa, j'ai 23 ans. Je suis consultante en image de marque, dans la mode. Je fais beaucoup de choses à la fois, du coup c'est trop compliqué quand on te pose cette question, qu'est-ce que tu fais ?
Tu vas déconstruire le parcours.
Ouais. Mais du coup voilà.
Ok, tu es née à Paris, je crois que tu es la première parisienne qu'on reçoit, un produit parisien.
Sérieux ?
Ouais.
Ouais. Ouais, 100%. Mais, du coup ouais, je suis née à Paris, je suis née dans le 10e, j'ai grandi dans le 19 et je continue à vivre dans le 19e.
Pas quitter Paris ?
Non, jamais.
Donc tu grandis dans le 19e, c'est ça ?
C'est ça.
Avec tes parents, c'est quoi un petit peu le contexte familial, si t'as envie d'en parler ?
Mes parents, ils viennent de Tunisie, dans le sud de la Tunisie, en fait.
Okay.
De base, ma mère, elle est née en France, elle est née à Lyon. Ouais. Mais avec sa famille, ils ont fait l'émigration à l'envers. Elle est née à Lyon. Elle est née à Lyon, elle est née en France, elle est repartie au fait au bled.
Okay.
Parce que mon grand-père, il préférait là-bas. Du coup, ils ont fait le truc à l'envers.
Okay.
Et mon père, il a fait le truc, c'est qu'il est né en Tunisie et après, il est venu en France.
Ok, ok. Et du coup, ta mère est revenue quand elle s'est mariée ou
c'est ça, ils se sont rencontrés du coup en Tunisie et quand ils se sont mariés, ils sont revenus à Paris.
Mmh.
Et de là. Je suis là maintenant.
C'est là. Ok, t'as des frères et sœurs. Comment tu grandis ? Raconte un petit peu.
En fait, on est quatre.
Ouais.
Donc, c'est deux filles, deux garçons. Sauf que moi, il y a un grand écart en fait entre moi et mes frères et sœurs.
Ok.
Donc, genre 7 ans d'écart. Donc, je suis la plus petite.
Oh, le bébé de la famille.
C'est ça. Et en fait, quand t'es la plus petite, parfois t'es un peu la plus libre dans le sens où t'as moins de pression. Et parce que eux ils ont déjà tout fait, tu vois.
Ouais.
Mon frère, il est ingénieur, ma sœur, elle est professeure. Mmh. C'est les métiers que les darons, ils aiment bien.
Donc toi, tu peux
être libre un peu de faire les trucs un peu artistiques qu'ils comprennent pas trop, tu vois. Même, tu sais, les darons, plus ils vieillissent et plus ils deviennent moins stricts finalement.
Ouais, ils sont fatigués.
Ils sont fatigués.
C'est ceux d'avant, ils ont usé.
Et c'est trop marrant parce que quand mes frères et sœurs, ils me racontent comment mes parents, ils étaient avant, c'est pas du tout les mêmes parents que j'ai connus moi. Donc en fait, tu grandis avec tes parents, tu vois.
Ouais, de ouf.
Et moi, j'ai connu la phase où vous étiez le plus mature et le plus chill.
Open.
Voilà, open.
Ça a dû t'aider, ça, pour les choix que t'as fait et tout, pour
c'est
la manière
ça.
Dont
et
je t'ai construite.
C'est ça, et en fait, surtout que mon père, moi, il est entrepreneur et que j'ai une famille aussi d'entrepreneurs, ou mon frère aussi, mais j'ai des cousins aussi. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de...
De naturel chez toi, c'est
naturel,
pas...
C'est pas venu en mode, c'est un risque, non, fais pas ça et tout. C'est en mode,
c'est
ok,
chance,
viens,
hein.
Je vais te montrer les
combines
du métier. Les combines du métier. Non, tu déclares ci, tu déclares ça et tout,
c'est
tu
trop
vois.
Bien, ça.
Ouais, non, c'est trop bien, même pour les trucs de numéro de sirette,
ouais,
de facture.
Ouais, t'as été accompagnée, t'as pas découvert ça toute seule en mode
moi, depuis que je suis petite, en fait, j'étais en primaire,
j'étais à l'école et quand je rentrais à la maison, je devais compter les tickets de restaurant de mon père, je devais les trier, je vais faire des chèques, tu vois. On te donne des documents, hein, t'as 9 ans, tu sais pas.
T'as baigné dedans, quoi.
Tu sais, et quand tu sais pas répondre, ils te disent, mais tu fais quoi à l'école? On t'apprend à l'école alors.
Moi, c'est vrai, c'est des choses qu'on nous apprend pas à l'école, ça, la comptabilité,
mais je pense
c'est des choses beaucoup plus techniques.
Même tous les enfants qui sont nés un peu de l'immigration, on a dû faire face super tôt à ça, à traduire les documents,
bien
l'administration, des trucs comme ça. Et du coup, en fait, moi, ça m'a donné un peu cette autonomie, tu vois.
Trop bien. T'étais quoi comme élève, du coup?
J'étais l'élève que les profs, ils aimaient bien et ils aimaient pas. Parce que niveau des notes, il n'y avait rien à dire, mais je parlais trop.
Moi, j'étais la même.
Et du coup, en fait, ils disaient, ouais, mais tu sais, tu serais tellement parfaite si tu faisais pas les bavardages. Et du coup, en fait, t'avais le décalage entre les notes super bien et les appréciations super pas bien, en fait. Elle parle trop, tu vois.
J'avais la même. Et mon père, carrément, il regardait même plus les notes, il regardait que les commentaires.
C'est ça.
Et s'il y avait un bavardage dans le bulletin du trimestre, c'était pas bon, genre.
Moi, fallait rien regarder. De toute façon, il arrivait une fois par an. Il y en avait 2-3 que j'arrivais à intercepter pour sauver.
Non, moi, mon père, je pouvais pas intercepter. Je venais tout le temps, en fait, parce que, tu sais, c'était une primaire. En fait, c'est une maternelle, une primaire et un collège qui étaient collés. Mmh. Et du coup, nous, avec mes frères et sœurs, on a tous fait ce même cycle. C'est-à-dire qu'en fait, les profs, ils connaissaient mes frères et sœurs, ils connaissaient mes parents direct quand je suis arrivée, genre, tu vois.
Là, c'est la famille.
C'est ça. Mais du coup, ils comparaient. Donc c'est...
Bah, bien sûr.
Tu vois, donc...
C'est dans le bon sens, ça va, parce que j'ai des potes, ils arrivaient, les profs, leurs frères, ils avaient déjà tout cassé. ils avaient déjà rien fait, mais déjà, ils étaient catalogués de ouf.
Ouais, les premières semaines, quand t'arrives en cours, le prof, il fait l'appel, il dit, t'es la sœur d'eux ou le frère d'eux, t'es là genre...
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, moi, j'ai une famille qui a tous... Ils ont tous fait du basket, en fait.
Ok.
Du coup, j'étais obligée de faire du... Je suis pas obligée, mais vas-y. Je devais faire du basket aussi.
Ouais.
Et en fait, ce qui était cool dans mon collège, c'est que ils mettaient super en valeur le sport pour faire monter les notes, en fait. C'était un système de collège en ZEP, un peu, tu vois. Mm-hmm. Et en gros, t'étais mis dans une classe en fonction de ce que tu faisais. Dans le sens, t'avais la classe foot. Et du coup, de la 6e à la 3e, t'allais être en foot. La classe basket. De la 6e à la 3e, tu vas être en basket. Classe allemand, par exemple, un truc comme ça. Et moi, j'étais en basket. Mmh. Et du coup, c'était trop cool parce que c'est un sport vraiment... Je sais que les basketteurs, ils aiment trop dire que c'est le meilleur sport, mais c'est le meilleur sport.
Tu vois, chacun défend sa parole.
En fait, ça change du foot parce que je trouve que c'est plus dans l'ambiance, le basket. Tu vois, c'est genre, on faisait des matchs et on mettait la musique en même temps. Tu vois, il n'y a pas ça dans les matchs de foot et tout.
Ouais. Il y a un truc culture global.
Et en fait, du coup, si t'avais des mauvaises notes, bah, tu quittais l'équipe de basket.
Ah, la pression, on dirait les frères Scott.
C'est ça, c'était grave ça. Et du coup, ça t'encourageait à avoir des bonnes notes parce que toi, tu veux kiffer le basket, du coup, t'as des bonnes notes pour continuer à être dans le basket.
Ok, c'est pas mal comme système,
ça. C'est un bon challenge, du coup.
Ouais. C'est ça. Et après ça, du coup, je suis partie au lycée.
Ouais.
Et comme je te l'avais dit plus tôt, les systèmes à Paris, c'est que c'est en fonction de tes notes, tu vas dans un lycée. Tu fais une liste de 10 lycées et après ils trient et c'est super stratégique. Enfin, les gens...
Bien sûr, le choix de lycée à Paris, il est
c'est un truc
hyper
de
fort.
Fou dans le sens où tu as ce truc où, par exemple, si tu as mis un lycée en fait, il y a une rivalité entre lycées, ce qui fait qu'en fait, si tu mets un lycée en choix 1 et qu'il te refuse, et ben, tu vas pas forcément avoir ton choix 2 parce que le choix 2, il se dit, ah, mais si eux ils l'ont refusé, pourquoi moi je vais l'accepter? Parce que ces deux lycées sont en rivalité. Et du coup, en fait, si ton choix 1 ne t'accepte pas, tu peux vite dégringoler au choix 7, en fait.
Wow.
Parce qu'il y a une rivalité entre lycée et c'est un truc de fou.
C'est ouf, toi, tu te souviens.
Et toi, t'as eu ton choix 1, du coup?
Non, j'ai pas eu mon choix 1.
Okay.
J'ai eu
le choix 12.
Ah, ouais, un truc comme ça, tu vois.
Non, mais sérieux.
À cause de ça, parce qu'en fait, il faut être stratégique, faut pas mettre le lycée que tu veux, faut mettre le lycée où il y a moins de trucs. C'est un truc super bizarre. Je sais pas si ça a changé depuis. Et du coup, ouais, je suis partie dans ce lycée dans le Marais. Et c'était vraiment le...
Ça a été un choc culturel pour toi ou pas?
Choc culturel énorme. Déjà, c'était la première fois que je prenais le métro, tu vois.
Wow.
Première fois que je me prenais le métro toute seule. J'étais là, j'arrive dans le Marais, je connais rien du tout à l'endroit. Genre, j'étais jamais venue dans le quartier.
Ouais.
C'était la première fois dans ma vie où j'étais... quand t'es la seule dans la pièce, tu vois. La seule quelque chose dans la pièce. Ouais. Tu vois, la seule. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment la seule maghrébine, en fait, dans la pièce.
Ça, c'est chaud. Hein.
Et j'étais. En fait, j'avais jamais eu cette sensation avant, tu vois. Parce que quand j'étais dans le 19e, bah, c'était tellement mélangé. Mm. Et en fait, c'était des fois un peu l'inverse où il n'y avait qu'une personne blanche dans la classe, tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr. Et là, t'as vécu le truc inverse, quoi.
Là, c'était l'inverse. Et en fait, j'étais choquée comment on te mettait dans une case, tu vois. Mm. Ah, t'habites dans le 19e. Ah, du coup, t'es une Kaira, je sais pas quoi. Mais là, non. De quoi vous parlez, en fait, tu vois. Ou ah, quand ça parle de certains sujets, tout le monde se retourne. Tu vois ce truc.
Ah putain, il y a un mème comme
au
ça.
Collège, au collège,
tu vois les mèmes comme ça où il y a tout le monde qui se retourne.
Au collège, nous, on n'avait pas ça parce que, tu vois, même quand ils parlaient peut-être des fois de colonisation, je sais pas quoi, on était tous.
Tous concernés.
On était tous concernés. Donc on était là en mode, oh, vous connaissez le sujet, madame, tu vois. Mais là, c'était genre être la seule. Et en fait, je l'ai super mal vécu parce qu'il y avait vraiment un décalage, même en fonction de. Des gens qui étaient là, enfin, moi je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs et eux, eh ben, ils allaient voir leur prof particulier, tu vois. Il y en a, il y en a, ils avaient des chauffeurs, s'il te plaît, tu vois. Donc j'étais en mode, qu'est-ce que
c'est
je fais
ici. C'est pas la même réalité, ouais.
Et en fait, les seuls rebeux, les seuls renois et les gens qui viennent un peu de banlieue et des limites de Paris, eh ben, on se connaissait tous, qu'importe les niveaux, en fait, parce qu'on traînait qu'entre nous.
Ah ouais, tu veux, quand tu dis niveau, c'est les classes, genre première, seconde, terminale.
Les classes, c'est-à-dire que moi, j'étais en seconde, bah, je traînais avec des gens qui étaient en terminale parce qu'ils venaient du 19e, tu
ouais,
vois.
Ouais, 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 ok.
C'est vraiment, on était en reste de qui est comme nous ici, tu vois.
C'est ouf, hein.
Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie de ce lycée-là.
T'as resté combien de temps, du coup, t'as fait
J'ai pas réussi à faire plus.
C'est vrai, t'as vraiment senti
non,
un
en
truc
fait, ça s'est joué, du coup, dans mes notes, tu vois, parce qu'en fait, moi, je voulais plus venir dans ce lycée, donc je séchais les cours. Et du coup, c'était vraiment un bon truc, parce que le bon côté, c'est que je séchais les cours, mais je pouvais pas rester chez moi. Parce que moi, sinon mes parents, ils me disaient, mais pourquoi tu vas à l'école, tu vois
ouais.
Et du coup, en fait, je faisais le tour du quartier. Et du coup, je faisais le tour du quartier, et après de l'arrondissement, et après, au final, de Paris. C'est-à-dire que...
Tu te baladais, quoi.
Je me baladais, je prenais un bus, je me perdais. Mais je jure, je prenais un bus.
Ah bah comme elle...
Et je me perds. Et je me perds, et après, j'essayais de retrouver mon chemin. Et du coup, mes potes, ils m'appellent la RATP, parce que je connais toutes les lignes de bus, toutes les lignes de métro, je connais toutes les rues, genre.
Ah bah ouais, t'as zoné, quoi.
J'ai fait une course d'orientation pendant un an.
Mais tu faisais quoi? Genre, tu faisais du lèche-vitrine, tu faisais, je sais pas, le tour des boulangeries de Paris, tu faisais
non,
quoi?
Non, en fait, j'allais dans les galeries, parce qu'il y avait que des galeries dans le barin.
Ah.
Et je savais pas c'était quoi, moi. Je rentre, il y a un tableau. Tu vois, tu sais, c'est les petites galeries comme ça, il y a un tableau, il y a un carnet, je mettais des trucs dans les carnets des gens, tu vois, comme ça. Tu sais, le carnet, tu mets les avis.
Ouais.
Moi, je mettais des trucs comme ça, tu vois.
C'est
et je zonnais et tout. Et en fait, ce qu'on faisait avec mes potes, du coup, c'était un peu l'époque Twitter et tout.
Mm-hmm.
Et je rencontrais des potes qui étaient un peu comme moi, du coup, qui aussi avaient été dans des lycées pas loin.
Mmh.
Du coup, on se rejoignait. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était trop cool parce qu'on était tous un peu passionnés de tu vois, c'était l'époque un peu Tyler, The Creator, Asaf Rocky, tout ça et tout. Et du coup, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait devant les défilés.
Mmh.
Tu vois, il n'y avait pas ça avant. C'était avant hein, Vigipirate, etc. Tu vois. Du coup, en fait, tu pouvais juste faire la queue devant le Palais Tokyo.
Ouais.
Et en fait, tu rentrais dans le défilé, tu vois. Tu rentrais dans le Givenchy, tu rentrais dans Yoji Miyamoto, mais genre en mode tranquille, tu vois.
Ouais.
Plus les vigiles, c'était des rebeux, c'était des renois, tu vois.
Ouais,
donc tu
disais,
allez, laisse-moi rentrer, tu vois. Et il n'y avait pas ce truc de sécurité, de masque, tu vois. Il n'y avait rien du tout. Et du coup, tu rentrais et nous, on regardait comme ça et tout, tu vois. Et on kiffait le truc. Vraiment.
Donc c'est ça ton premier truc avec la mode, c'est ça, c'est ces défilés-là. Toi, comment tu découvres la mode? Est-ce que tu te retrouves à vouloir aller à un défilé, je sais pas, que tu disais Yoji ou Givenchy, tout ça, c'est donc que déjà t'as un œil et que t'as une appétence pour la mode, ça vient d'où?
Ça vient vraiment de toute cette tous ces gens qui ont fait un peu la culture, tu vois, genre... moi, j'étais à fond sur... quand j'étais petite, j'étais à fond sur Rihanna.
Ouais.
Je kiffais Rihanna, mais je kiffais pas pour... ses sons, ou je sais pas quoi, ce qu'il fait, en fait, son charisme, ça dégaine, tu vois.
Mm-hmm. Ce look et tout.
C'était tout. Même si elle chantait pas aussi bien que Beyoncé, elle est dure la miabie, de toute façon. Tu
ouais.
vois ce que je veux dire? T'avais rien à dire sur son style.
Ouais, et puis elle changeait tout le temps, tous les 6 mois. C'était une nouvelle pecou, un nouveau style.
Ouais, t'es versatile, ouais.
Ah ouais, de ouf. Hein.
C'était un truc de fou. Et c'était un peu ce côté où moi, j'étais un super garçon manqué, en fait.
Mm-hmm.
Mais en même temps, j'avais cette féminité parce que. Quand tu rentres, parce que moi je rentre chaque année au Bled, et en fait, il y a ce truc où t'as des mariages tous les jours. Donc t'es obligé d'être habillée en tenue traditionnelle ou en robe maquillée tous les jours et tout. C'est-à-dire qu'en gros, en France, j'étais un peu garçon manqué, mais au bled, tu peux pas faire le garçon manqué. On va dire, tu fais quoi là? Ils comprennent pas, quoi.
Ça pète un plomb, quoi.
Ça pète un plomb, toi. Et du coup, j'étais là en mode, au bled, je suis en mode robe, mariage et tout. C'était un peu... Et mais je kiffais quand même. Tu vois, je kiffais quand même. Et du coup, j'aimais... c'est pour ça que j'aimais bien Rihanna, parce que tu vois, des fois, elle était en mode...
Tomboy, et des fois, super sexy, donc
c'est ça,
machin,
ouais. Tu vois. Okay. Et en même temps, j'étais mais à fond dedans sur, tu sais, Tyler et toute sa clique, tu vois. C'était un truc de ouf avec mes potes, mais de fou malade. On regardait, tu sais, ils avaient une série. Comment ça s'appelle déjà?
Ah, moi, j'ai pas ça, j'ai pas.
Moi, c'est quoi? C'est toute l'équipe de Golfwing, tout ça?
Ouais, ils avaient une série super drôle.
Ah, ça, j'ai jamais regardé, non.
C'est
un peu trop perché pour moi. C'est... Enfin, je respecte, c'est... mais c'était pas mon...
C'était pas mon délire. C'est un truc avec le ASAP Mob. Et ouais, c'était... c'était toute une era. Bah, en fait, c'est Tumblr, tu vois. Moi, j'étais à fond.
Il y a trop de gens qui viennent ici.
Ils parlent de Tumblr. Ouais.
Tumblr, c'est un vrai truc pour la culture.
Mais je l'ai encore, mon Tumblr.
Moi aussi, pareil.
Je le lâche pas. C'est le meilleur réseau du monde. Et on était à fond dedans. On était là, on voulait des shorts Pyrex et tout. Aujourd'hui, je dis merci, j'ai pas eu l'argent pour tout ce que je voulais. Je serais retrouvée avec des shorts Pyrex, des trucs HBA et tout.
Tu vois, des trucs de Bayard, moi.
Bah, à l'époque, à New York, c'était big. Hein.
Le short, les guines, le truc, la chemise que t'attaches à ta taille et tout, tu vois. C'est des trucs on
ça,
aurait kiffé avoir, et du coup, on n'avait pas, parce qu'on n'avait pas l'argent pour les trucs Bape et tout.
Ouais.
Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait zoner en fripe, en fait.
Tu vois.
On allait tous en fripe, avant que ça soit un peu la hype des fripes, upcycling, tout ça et tout.
Ouais.
On allait tous en fripe, et on n'allait pas dans les fripes brochées, on allait dans les guérisoles, tu vois.
Bien sûr.
Les guérisoles où il y a les trucs à 1 euro. Et on fouillait.
Faut chercher, là, c'est Indiana Jones.
Ouais, ouais,
on
c'est génial, ça.
Place de Clichy, il y en a trois. Je vous conseille celui-là de Place de Clichy.
Non, donne pas trop le, donne pas trop le plug.
Il y en a trois. On allait, on fouillait, mais je me rappelle, en plus, on trouvait des polos comme des garçons à 3 euros.
Ah ouais, mais c'est
des
une vibe.
Des suites comme ça, Yuji Yamamoto, 1 euro, des trucs comme ça. C'était... Moi, j'ai jamais acheté de paire de Converse de ma vie. Je suis toujours partie à Guérisol.
Ouais,
on
avait
toujours 1 euro, 2 euros. Allez, tu vois.
On y va.
Et c'est un peu ce truc où comment j'ai un peu construit mon style, dans le sens où j'avais pas forcément... En fait, c'est pas que j'avais pas les moyens de les acheter, mais tu sais, tes parents, ils comprennent pas comment, pourquoi ça vaut autant d'argent un vêtement. En fait, ils ont l'argent, mais ils disent, mais je vais pas mettre cet argent dans ça, en fait.
Bien sûr.
Comment ça, tu me parles de suite à 400 euros, ça va pas la tête ou quoi, tu vois?
Non, mais c'est...
Faut pas leur dire ça. Ils disent, mais c'est un salaire, tu
mais
vois?
C'est ça, c'est
et
ça.
Du coup, ce qu'on faisait, c'est que moi, j'aimais bien... transformer les choses. Dans le sens, je savais pas coudre, du coup ce que je faisais, c'est que je sais pas, je prenais un pull et je le mettais en jupe, parce que en fait je vais le descendre comme ça et je vais le transformer en jupe, et du coup en fait au lieu d'acheter de nouveaux vêtements, bah
tu te débrouilles, quoi.
Je vais trouver un nouveau sens aux vêtements, tu vois, genre je mettais des bombers à, du coup je les montais à l'envers, du coup ça me faisait deux vestes, tu vois, je calculais comme ça et tout.
C'est ouf.
Et ouais, tout ça, ça a commencé quand en fait je suis rentrée au lycée dans le Marais. Et après, en fait, j'ai switché, je suis partie à Pigalle.
Ok.
Je suis partie à Pigalle.
C'est une good vibe, ça.
C'est une good vibe, parce que c'est un mix entre les deux. Tu vois, il y avait de tout. C'était vraiment un mix entre, on va dire, ceux qui habitent un peu vers Jules Geoffrin, le 17e et tout. Et un mix de ceux qui viennent du 20, du 19, de Barbès et tout.
En plus, c'était à la grande époque de Pigalle, non?
C'est ça. Et du coup, en fait, le terrain de basket, il était derrière le lycée.
Ah ouais,
et du coup, on y allait tout le temps. C'était trop bien.
Ok. Donc, tu finis le lycée à Pigalle, tu passes ton bac et tout?
Ouais, je passe mon bac et tout. Et c'était... Le bac, c'est l'époque où j'ai décidé, tu vois, de porter le voile.
Ouais.
Et du coup, je rentrais à la fac. Et c'était la première fois où j'allais être en fait en classe avec mon voile et que j'allais plus jamais l'enlever, tu vois. Donc c'était un truc de ouf un peu, parce que je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je vais être moi en fait à la classe, tu vois. Et personne va... j'avais pas l'habitude, tu vois, c'est un truc pas normal, j'avais pas l'habitude. Du coup, je me dis, genre, j'ai jamais parlé à un prof comme ça en étant moi, en fait, tu vois.
Parce que du coup, quand tu dis j'ai commencé à mettre le voile, c'est à l'école, tu le mettais déjà avant?
Non,
mais
c'était
peut-être en dehors de...
C'était l'era du bac, du coup, c'était à fin terminale, donc j'ai traîné, on va dire, 2 mois à l'école avec, tu vois. Donc au lycée, t'as pas le droit de le porter, donc tu dois l'enlever à l'entrée et tout.
Okay,
et en fait, c'est comme si tu t'enlevais une partie de toi, en fait.
Bien sûr.
Tu vois. Et c'est comme si t'étais schizophrène, t'étais deux personnes à la fois. Du coup, là, c'était à la fac, et je me suis dit, waouh, tu vois, genre... Et
Libération, quoi.
Ouais. Libération, mais en même temps, tu te rends compte à quel point... Parce qu'en fait, on t'a toujours éduqué que les gens, ils étaient partiels, tu vois. Mais en fait, pas du tout, tu vois. Un prof, ça reste un humain, et finalement, il va faire des différences, tu vois. Moi, quand j'étais à la fac, j'ai fait face à certaines remarques, certains trucs où je me suis dit « wow ». Tu vois. Et ça se traduit, par exemple, tu vois, le premier jour où j'arrive, trop bien, trop cool, je me dis « waouh, enfin !» et tout. Premier jour, convocation. Tu vois, on me convoque.
Arrête.
J'arrive devant et je vois... J'ai tout de suite compris quand devant la porte, j'ai vu une autre fille qui portait le voile aussi. Je me dis « ah, ok, ouais, je sais pourquoi on m'a convoquée. » C'est et là, ça. En fait, c'était le chef un peu du département qui nous disait en gros, oui, voilà, donc je vais pas tourner à droite, à gauche. Je vous ai convoqué pour vous dire que voilà, vous avez un stage durant durant ce DUT.
Ouais, j'allais dire, c'était quoi études ?
C'était un stage et du coup, si vous avez pas stage, vous avez pas votre DUT. Mm-hmm. Et je vais pas vous mentir que de par votre tenue vestimentaire, vous risquez de pas en trouver un.
Ah, mais lui, premier jour, boum,
vous risquez de pas en trouver un. Et si vous décidez de l'enlever pour votre stage, bah, pourquoi pas l'enlever à l'université? Oh, ça, c'est interdit de dire ça de base.
La double pilule.
Oh, tu vois, genre, et j'étais en mode, ok, bonjour, bienvenue à la fac, tu vois.
C'était un DUT en quoi?
En fait, c'était un DUT en transport et logistique, donc rien à voir.
Ah ouais.
Transport et logistique, mais en même temps, ça m'a appris parce que... en fait, moi, je me suis dit, je vais faire de la logistique parce que... Il y a des métiers partout dans la logistique. Il y a une place partout.
Ouais, bien sûr.
Et c'était aussi un moment où je me dis, en France, le marché du travail est tellement fermé aux femmes musulmanes, en fait. Donc, faut que j'ouvre le plus de possibilités possibles.
Ouais.
Je me suis dit, en logistique, je trouverai quelque chose.
Tu peux faire un truc international à fond.
C'est ça, tu vois. Et du coup, il nous a dit ça, mais en même temps, elle avait pas tort parce que j'ai pas trouvé de stage, tu vois.
Mais toi, tu réagis comment à ce truc-là?
T'es choquée et en même temps, je me dis, je vais lui montrer quoi. Je vais lui montrer. Moi, dans ma tête, c'était un mode, je vais lui montrer. Je vais lui montrer que je vais trouver et il verra. Et du coup, quand j'ai pas trouvé, ça m'a encore plus énervée. Mais du coup, je me suis dit, attends, je vais aller plus loin que ce qu'il me demande, tu vois. Et en fait, j'ai pas trouvé de stage, mais du coup, j'ai créé ma propre entreprise et j'ai fait mon stage dans cette entreprise. Et il y avait aucune règle qui disait qu'on pouvait pas faire ça.
C'est la meilleure histoire.
Tu vois, il y avait aucune règle qui disait qu'on pouvait pas faire ça.
T'as trouvé le système pour niquer le système.
C'est ça. Et en fait, quand on faisait nos oraux et que tout le monde était là, ouais, moi j'ai fait mon stage chez je sais pas qui, je sais pas quoi, je dis, mais moi j'ai fait mon stage chez moi en fait. Et j'ai fait mon entreprise.
Chez Taqua Limited.
C'est ça. Et de là.
Non, mais plus sérieusement, c'était quoi la structure que t'as montée, quoi comme boîte, tu faisais quoi, enfin c'était quoi le...
En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était autour aussi d'un projet tutoré, et en fait j'avais découvert la logistique événementielle. Et je me suis dit, écoutez, moi je vais faire, c'était avec une amie à moi, Myriam, si tu nous écoutes. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai un projet de fou, tu vois, à Londres, je connais plein de marques, ils font de la modeste fashion, ils font des événements... À Dubaï aussi, ils aiment trop faire ça. Je les regarde sur Instagram, mais à Paris, il n'y a jamais rien. Non, on galère. On est là, on n'a que le Bourget, mais le Bourget, c'est cheap et tout, tu vois.
C'est loin, c'est excentré.
C'est
loin,
et en plus, c'est pas...
C'est qu'une fois par an, de toute façon.
Ouais, c'est une fois par an, et en plus, c'est...
Toi, tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas ce que c'est. Ouais, le Bourget, après la modeste fashion.
Le Bourget, en fait, ça va être un salon... comment dire ? Un salon... Je sais pas, tu peux l'expliquer.
Déjà, le Bourget, c'est l'endroit.
Mais en fait, c'est un salon.
Ouais. Et c'est un salon qui a lieu une fois par an.
Ouais, qui dure 2-3 jours où, autour de l'islam, où il y a des gens qui vendent des livres, il y a des conférences, il y a différents stands avec justement de la fashion. C'est un peu tout ce qui recouvre.
C'est un mix
tout
de tout.
Ouais, un mix de tout. Et... L'islam, côté business, côté foi, côté tout, quoi.
C'est ça.
Côté communauté, quoi.
Mais du coup, c'est un truc super aussi famille, c'est un truc aussi super. C'est pas dans la créa, c'est plus dans la vente en gros, tu vois. Il n'y a pas de réflexion derrière. Les gens, ils vont là-bas et ils disent « je vais vendre
».
Tu vois ce que je veux dire?
Okay.
C'est une vibe, c'est « je vais vendre et je vais vendre ». Je vais vendre ou je vais me marier, parce que s'il y a ça, c'est là-bas.
Rencontre.
C'est ça.
Et du coup, je lui ai dit « mais t'as vu à Dubaï, à Londres, à New York, ils font des trucs pour les jeunes. Vraiment, c'est un truc de fou ce qu'ils font.
Mmh. Je dis, ouais, tu t'es dit toi à l'époque il y a un marché.
C'est ça, et je me dis et à Paris pourquoi il y a pas ça? Mmh. Alors que à Paris il y a la demande et il y a aussi cette jeune génération de musulmans créatifs et tout, donc il devrait y avoir ça.
Il y avait une pote à l'époque qui était dans ça, qui s'appelle Hayek, une meuf de Suisse. Je sais pas si tu vois qui c'est.
Ah si, c'est de ouf.
Elle était dans la Modest Fashion et
c'est
tout.
C'est de ouf.
Du coup, juste Modest Fashion, peut-être pour les gens qui en ont jamais entendu parler ou que... qui
veulent en savoir fashion, plus, comment tu définirais ça? C'est un style où tu vas t'habiller, mais tu vas couvrir en fait certaines parties de ton corps. Et que ça va être, en fait, ça va être modeste tout simplement. Mmh. Et de là, c'est pas un style, mais plusieurs.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ah là là, bien Modest Fashion. Non, c'est un regroupement.
C'est un concept,
de...
en fait.
C'est un concept où tu t'habilles de manière modeste. Et en fait, tu vois que t'as des filles qui s'habillent comme ça, mais elles s'habillent punk.
Ouais,
tu vois,
ouf.
T'as des filles qui s'habillent ça, mais en mode tomboy, tu mmh. vois. T'as des, et c'est pas forcément lié à l'islam ou femme maghrébine ou autre, parce que tu vois, tu peux aller en Corée, ils s'habillent tous comme ça, mmh. en Asie aussi, tu vois. Et du coup, nous, on a décidé de faire ça en France. Et c'était un petit pop-up, un petit truc et tout, tu vois, comme ça. Ma prof, elle est venue en plus, elle était là en train de dire, waouh, c'est un truc de ouf, qu'est-ce que vous avez fait et tout, tu vois. Et
toi, tu faisais ton stage dans ça, du coup.
C'est ça, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai tout créé, le lieu. Enfin, c'était la première fois où... je me rappelle que c'est la première fois que je donne un chèque de caution de ma vie. C'était ma mère, elle m'a dit, tu le perds, t'es morte. C'était le chèque, genre, je le tenais comme ça, tu vois.
Ouais.
Et c'était avec les Galeries Joseph, je me rappelle.
Ah, cool. Bah, tu retournes dans le Marais, du coup.
C'est ça, dans le Marais. Et c'était en face de mon lycée.
Trop bien.
En face de mon lycée. Je me l'ai dit là en mode... Ah,
la petite vengeance de la vie comme ça.
De fou. C'est cool. C'est ça. Et de là, on a fait que dans des galeries... En fait, c'est des galeries d'art de base.
Ouais.
Et on a décidé de faire que dans des galeries d'art. Parce que en même temps, on mixait mode... Et art, parce que tu dis, en fait ça va ensemble, tu vois.
Ah, bien sûr.
Ça va trop ensemble et en même temps plus il y a de gens créés qui font des trucs de créa et plus on veut les mettre en avant. De là c'est devenu un concept en fait. On okay. appelait Zarafet Galerie et ce qu'on faisait c'est qu'on ramenait plein de marques de l'étranger mais aussi de France finalement.
Okay.
Et on les mettait dans un endroit. On faisait un truc super propre, super mode. En fait, showroom de mode. Ce que j'ai vu, moi, à la Fashion Week, je me dis, mais en fait, c'est ce que je veux aussi pour ma communauté, tu vois. C'est ce level de standard qu'on mérite. Et du coup, et que je veux montrer aux gens. Et du coup, on a fait ça. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'on a commencé avec trois marques, je crois. Et, et à la dernière édition, on a fait 8 éditions. Et à la dernière, il y en avait genre 20.
Ah ouais.
Et c'était trop bien parce que les clientes qui venaient à la première édition sont designers à la dernière. Parce que quand elles sont venues à la première édition, c'est ça, et elles se sont dit aussi, ah c'est possible, tu vois. Elles se sont dit, ah c'est possible. Et du coup, ça les a donné envie de créer des marques et de faire de la mode ou faire de l'art, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que nous on s'est rendu compte, parce que tu vois, par exemple, l'événement ça ouvrait de 11h à 18h. Mais les gens, ils venaient à 10h30, tu vois, il y avait une queue de malades.
Ils attendaient. Ah ouais,
et ils partaient à 18h, mais genre, on devait les pousser, quoi. Rentrer chez vous, tu vois.
Mais je pense que ça fait plaisir de trouver ce sens de communauté, des meufs qui ont les mêmes intérêts que toi, avec
ça,
qui tu peux parler de trucs.
C'est trop ça. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils venaient, mais des fois, ils achetaient rien. C'est juste pour parler.
Ouais.
C'était pour parler.
Faire partie du truc, quoi.
Des fois, quand t'es dans une communauté... T'as l'impression que t'es un outsider, tu vois. Que t'es pas. J'ai pas envie de dire, t'es pas un rebeu comme les autres, mais genre, les gens, ils te voient en mode bizarre parce que t'as pas les mêmes intérêts qu'eux. Tu vois ce que je veux dire?
C'est une question de code.
C'est ça. Et tu t'intéresses à l'art, tu t'intéresses à la mode et tout, tu vois. Et en fait, là, ils venaient d'un endroit où les gens, ils faisaient partie de leur communauté. Et ils avaient les mêmes intérêts. Et la même vision.
Ouais.
Et la même ouverture d'esprit sur les choses. Et du coup, en fait, et ça venait de partout, tu vois. Il y avait des meufs, elles venaient de Suisse, de Belgique. Donc, c'est là, en mode, waouh, c'est trop bien. Enfin, une meuf comme moi, tu vois. Enfin, une musulmane comme moi, tu vois, un truc comme ça. Et de là, il y a des gens qui sont venus, et il y a plein de gens. Genre, c'est ni des musulmans, ni des gens issus de la double culture ou quoi que ce soit. Et en fait, ils kiffaient la vibe. C'était des passants du Marais. Il y avait plein de mamies du Marais qui venaient.
C'est fou.
Et qui étaient là en mode « Oh, mais c'est trop joli, votre truc et tout. Vous vous expliquez, tu vois. »
C'est cool.
C'était trop, trop bien. Et de là, on s'est dit, bah, venez, on fait des talks, vu que les gens, ils aiment bien parler.
ça a duré combien de temps, ça, du coup ? Sur combien d'années tu l'as fait ?
J'ai fait ça quand j'avais 18 ans, donc ça devait être en 2017, 2018.
Ouais, et là, tu continues encore, genre cette année,
bah,
en ayant, ou pas ?
Depuis le Covid, ça s'est arrêté,
ah,
en
ouais.
fait.
Mais alors, tu penses en refaire un l'année prochaine, ou j'en sais rien, quand tu pourras ?
Grave, carrément. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est que... c'est qu'on a fait un talk. Au début, on a fait un talk avec Paulette sur la femme et la modeste fashion.
Ok.
C'était super intéressant. Et du coup, on a décidé d'en faire un sur un sujet qui me touche, moi, c'est la femme musulmane et le sport. Du coup, on a fait un talk et franchement, c'était ouf. C'était ouf parce que moi, je racontais mon expérience par rapport au basket, par rapport au fait que voilà, ça fait 6 ans que je faisais du basket et que j'ai dû arrêter parce qu'en fait, en France... Tu peux pas faire de match et de compétition avec le voile. Et en fait, c'est l'arbitre qui décide. Et on sait ce que l'arbitre va décider, tu vois, de toute manière. Et que, en fait, ça m'avait un peu dégoûté, tu vois, de faire du basket. Et t'as ce truc où, quand tu fais du basket dehors avec un voile, bah, les gens, ils vont te regarder bizarre, tu vois. Déjà, quand t'es une meuf et que t'es toute seule en train de faire du basket, tu regardes bizarre. Donc imagine quand t'as un voile et tout. Et du coup, tu te sens pas forcément à l'aise sur un playground et tout. Tu te sens pas à ta place, tu vois. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait tellement de femmes qui étaient dans cette situation, mais avec des sports différents de fou. Et t'avais une fille qui faisait du hand, t'avais une fille qui faisait du taekwondo, genre, tu vois. Même des filles qui faisaient de la danse, finalement. Et plein de trucs comme ça. Et en fait, on a fait un débat de fou. Et il y avait des hommes dans la pièce qui étaient un peu choqués, parce qu'en fait, ils s'en rendaient pas compte à quel point ben, les femmes de leur famille ou les femmes de leur communauté, en fait, elles vivaient ça. C'était comme deux mondes parallèles, tu vois.
Ouais.
Dans une communauté où, en fait, c'est toujours où les femmes, elles se battent pour leur truc, et les hommes, ils savent même pas ce qui est en train de se passer.
C'est la souffrance en silence, quoi.
C'est ça, ils sont déconnectés de ce qui est en train de se passer, ils sont déconnectés de...
Ouais, des enjeux, de tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté.
C'est ça. Tu vois, qu'est-ce que c'est en fait d'être une femme musulmane qui porte un voile en France dans notre génération, pas la génération de notre daronne, dans notre génération, tu vois.
Ouais, où t'as envie de faire tout ce que les jeunes filles de ton âge font, tu vois, de la même manière.
Tu vois. Et du coup, en fait, on s'est dit que ces discussions, elles devaient pas rester entre nous, parce que nous,
On
sait déjà, tu vois. Et du coup, de là, on a décidé de créer Akagi Club, et en fait, c'est un safe place qui... pour les femmes musulmanes et les femmes, en vrai, toutes les femmes qui veulent pratiquer du sport. Et on a créé ça durant le Covid. Et ça a suscité franchement tellement d'attention et de bons retours. Parce qu'on a commencé par des interviews, parce que c'était le Covid. Et en fait, toutes les filles, elles se sentaient tellement inspirées, genre merci, une image. Et en fait, quand on se rend compte dans les médias et dans la culture populaire, on voit jamais de femmes musulmanes en mouvement. Quand tu vas parler de femmes musulmanes à la télé ou je sais pas quoi, ça va être toujours une image fixe. Tu vois, elle est fixe, elle est souvent habillée tout en noir. Souvent une femme arabe, déjà on comprend pas pourquoi. Comme si c'était un synonyme arabe égale islam, tu vois. Et du coup, là, on a décidé de faire un shoot où on montrait des femmes, mais toutes les origines. Même, tu vois, une femme plus size qui porte le voile, on n'en voit jamais. Tu vois, et qui rigolent.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont créé un petit peu cette espèce d'ombre fantôme de la femme musulmane.
C'est clair.
Filiforme, en tout en noir, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'idée. Hein.
Et du coup, elles étaient habillées en fait normales, tu vois, colorées, dans un playground, souriantes, en mouvement, en faisant du skate, en faisant de la trottinette, en faisant du basket. Tu vois.
C'est génial, ça.
Et c'est des images qu'on voit pas, en fait. Et je me suis dit, autant qu'on crée nos propres images que quelqu'un d'autre va les créer pour nous, tu vois.
Il faut garder le contrôle sur ça.
Sur notre image. Et de là, on est en train de travailler sur faire des sessions d'initiation à des sports, tu vois. Parce qu'on se dit, en fait, si des sports basiques comme ça, comme le basket ou le foot...
qui sont des sports populaires en plus.
Oui, voilà, c'est déjà compliqué. Alors imagine, tu penses que.
Ouais, l'escrime, le golf, le truc.
On rêve même pas de faire du ballet ou de l'escrime qui nous paraît des trucs super. Ah, c'est trop loin ça. Déjà, laisse-moi arriver à faire du foot et du basket tranquille, tu vois.
Moi, j'ai fait de l'escrime.
C'est trop stylé. Pour moi, c'est le sport le plus stylé.
L'escrime. C'est trop cool, l'escrime.
Je me suis fait après... bannir.
Toujours le mauvais élève, Nico.
Ouais,
toujours
chaud.
Le cancre.
J'ai été castée, du coup, par une campagne pour Jean-Paul Gaultier. T'as ça ? T'as ce projet ?
Parce qu'avec tous ces projets, donc aussi bien ton événement que le truc autour du sport, ça a créé une certaine visibilité autour de toi aussi, tu penses, dans l'industrie ?
C'est ça, où en fait, je sais pas si on peut dire influenceuse, mais j'étais quelqu'un qui influence...
Porte-parole, en tout cas, c'est sûr.
Ouais, sa communauté, parce qu'en fait, je mettais en valeur la scène créative musulmane en France. Mm. Ouais, je la mettais en valeur et...
T'es devenue une voix, quoi.
C'est ça. Malgré moi. Et du coup, j'étais castée pour la campagne No Show de Jean-Paul Gaultier. Mm. Et c'était ouf, tu vois, c'était ouf. Mais en même temps...
Donc là, t'as pas besoin de forcer le truc, on vient de chercher. C'est pas fait moi rentrer dans le show, moi je suis dans le show.
C'est trop bien.
C'était ça. Et en fait... C'est un truc de ouf, mais en même temps, tes parents, ils te remettent toujours, tu vois, les pieds sur terre.
Parce que moi, j'étais en mode... Je crois pas parce que t'as
arrête
fait
de
le show,
la
tu vois.
C'est ça, j'étais en mode... je fais un truc pour Jean-Paul Gaultier. En plus, en même temps, il y avait une campagne pour Fendi aussi que j'ai faite.
Ouais.
Du coup, c'était les deux en même temps, et c'était là, j'ai fait ça et ça et tout. Et ils sont en mode... C'est qui ? En fait, tu sais quoi ? C'est quand t'essayes d'expliquer c'est quoi que tu te rends compte qu'en fait, c'est rien. Tu vois, et ouais. Que c'est toi qui mets l'importance sur des noms, mais en fait c'est juste un nom, c'est quoi ?
Ouais. Quelqu'un c'est différence de point de vue.
Quelqu'un qui connaît pas et qui ne veut pas connaître en fait l'histoire ou qui veut pas mettre d'importance sur une personne ou une marque, pour lui ça vaut rien. Et en fait c'est ça la valeur des choses, tu vois.
Ouais, après, c'est très subjectif, marque, mais bon quand même.
C'est l'image, ouais. C'est que toi tu fasses ça qui est quelque chose de fort.
Ouais. L'accomplissement il est fou d'arriver à ce niveau-là. Enfin, Jean-Paul Gaultier, ça reste une marque iconique. Hein.
Ah, iconique, ouais.
Et du coup, après ça, en fait, j'ai travaillé avec Jean-Paul Gaultier. Parce qu'en fait, moi, j'ai fini mon DUT. Après, j'ai fait une école de graphisme où j'ai fait de la com. Et après ça, en fait, j'étais en année de césure, tu vois.
T'as quand même fait des longues études, parce que du coup, DUT, c'est quoi, 2-3 ans ?
C'est 2 ans. Après, j'ai fait un an, je fais Bac plus 3.
Ok.
Tu vois. Et... de là, moi, je suis pas fan des études, hein, donc moi, je suis plus fan de qu'est-ce que je vais apprendre à la fin de ce truc. Ça veut dire que j'ai fait un DUT 2 ans, ok, j'ai appris la logistique événementielle, je sais comment ça marche. Mm-hmm. Maintenant, je vais faire de la com parce que j'ai pas envie de payer un community manager, j'ai pas envie de payer un je sais pas quoi, du coup, je vais le faire moi-même. Mm-hmm. Et en fait, c'est comme ça que je marche dans mes études, c'est qu'est-ce que je vais faire pour
que
ne pas le déléguer à quelqu'un.
Ouais, les savoir-faire.
C'est les savoir-faire, tu vois.
Trop smart.
Et du coup, j'ai fait une année de pause, et tant mieux, en fait, il y a eu tout ça pendant cette année de pause. En plus, c'était l'année du Covid, jeu de poker, franchement, trop bien.
Trop bien. Tu vois.
Et après, donc, à la fin de l'année 2020, je rentre en master. Sauf que, pareil, en fait, c'était toujours ce même truc où je trouve pas d'alternance. On me dit, c'est le profil parfait, mais voilà, par rapport au voile, blablabla.
Mais ça, on te le dit ouvertement ? Genre, tes entretiens, ça se passe comment ?
Ben, en fait, moi, ce que je fais, c'est que franchement, je mets ma photo sur mon CV, comme ça, c'est réglé, tu vois.
Ouais, au moins, si on t'appelle, il n'y a pas de surprise.
Il n'y a pas de surprise et tout. Et j'ai déjà fait le test sans et avec, et j'ai toujours plus d'appels quand je mets pas.
Elle change le prénom et le nom,
et l'adresse aussi.
Et l'adresse, tu vas voir, ça va être x10.
Et en fait, je me dis, c'est un truc de ouf. On a vécu le Covid, on a vécu tout ça, mais en fait, les mentalités, elles ne changent pas. Et. En 2018, j'arrive pas à trouver un stage. Et en fait, en 2020, on est toujours dans cette histoire où t'arrives à rien trouver.
Sauf que... là, accroche-toi parce que c'est pas prêt de s'arranger. On regardait ce matin la vidéo de campagne de Zemmour. Là, c'est catastrophique.
Déprimé, ouais.
Et le seul truc, en fait, qui me dit qui peut changer un truc, c'est en fait, c'est tes contacts et ton réseau et tes relations. Et c'est la seule chose qui va faire évoluer les choses. Voilà. Ça veut dire que en fait, moi, vu que j'avais fait cette campagne avec Jean-Paul Gaultier, j'avais eu le contact du coup de la DA, Florence Tétier.
Ouais, trop cool, Florence.
Ouais, trop trop.
Faut
cool.
Que je dise de venir.
Oui, de fou.
Je vais lui dire de venir.
Demande-lui de venir, elle est trop bien. Mmh. Et du coup, je l'ai contacté. Je lui dis voilà, je cherche un truc. Et je suis rentrée chez Jean-Paul Gaultier, quoi. Et c'était super cool. Au début, je suis rentrée en presse, tu vois. Ouais. C'était un métier que je connaissais pas forcément. Mmh. Et de
métier
là.
Métier dur en plus, la presse, hein.
Pas autant que ça, ah en fait.
Non, c'est pas
si dur. C'est parce que c'est Jean-Paul Gaultier.
Non, mais c'est pas dur le quotidien de la presse. C'est ingrat, mais c'est
quand t'as
c'est
des stylistes qui t'insultent, qui te truquent, qui te courent après.
Ah, moi, j'étais pas dans ce délire-là. Moi, j'étais plus dans le délire... En fait, Jean-Paul, il est parti. Du coup, c'était le relancement de la marque. C'était ce gros projet et en fait, c'était... Qui sont les nouvelles... Qui représente Jean-Paul Gaultier aujourd'hui, tu vois? Et une personne comme moi, c'est stratégique parce que j'étais la plus jeune, en fait, de la boîte. Et de loin assez, tu vois.
T'avais une vision fraîche.
C'est ça, et de ce qui se passait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur qui influence réellement aujourd'hui, tu vois, ça veut dire quoi l'influence, c'est quoi le pire. Et de là, en fait, moi, vu que je suis couteau suisse, j'étais entre un peu tout ce qui est pierre et tout ce qui est prod aussi. Donc je switchais entre les deux. Jusqu'à que, en fait, je suis arrivée à un stade où ça me plaisait plus. Pas ça me plaisait plus, mais c'était trop redondant. Et de là, en fait, j'ai commencé à assister Florence chez Jean-Paul Gaultier.
Qui a quel poste, elle?
Directrice artistique et qui s'occupe de toute l'image de la marque, en fait.
Ok.
Donc, j'ai commencé à l'assister et c'était le feu. Le pôle image, c'était... en fait, on venait de créer un pôle image, il n'y avait pas de pôle image de base, parce que c'était Jean-Paul qui s'occupait de tout. Le choix...
Ouais, il y a eu un vrai switch hein, ces derniers mois.
C'est ça, un vrai switch. Et du coup, c'était une expérience de fou. Parce qu'après, j'ai switché et je suis passée en freelance avec eux, mais freelance full-time.
Ok.
Où j'étais un peu le bras droit de Florence là-bas et que je m'occupais un peu de raconter des histoires. C'est-à-dire que le concept, il est sur les collabs. Donc, qui va réinterpréter les codes de Jean-Paul Gaultier? Tu vois, ça peut être une Chitose Abbé, comme ça peut être là bientôt un Glenn Martens, comme ça peut être...
Sakai.
Ouais, Chitose, du coup, Sakai. Et ça peut être aussi, tu vois, on a pris 5 designers pour faire... Parce qu'il y a aussi le retour du prêt-à-porter, tu vois, il y avait plein de trucs comme ça.
C'est un moment où il y a eu beaucoup d'actualité.
C'est ça, une collab avec Lil Nas. Et en fait, c'était un peu ça, tu vois, mon travail. C'était de trouver les... En fait, c'était un peu...
Les bons relais.
Les énergies, en fait. Il y a l'énergie de la marque. Et qui va avec cette énergie? Quel photographe va avec cette énergie? Quel concept va avec cette énergie? Quel collab match avec cette énergie? Quelle personne en... match avec cette énergie, célébrité ou autre. Et du coup, moi, c'était de connecter toutes ces énergies dans le sens où, par exemple, quand on prend Lil Nas, c'était en fait, voilà, Gaultier, iconique, la personne iconique Gaultier, c'est Madonna. Parce que dans son époque, ça représentait Gaultier. Gaultier, c'est l'enfant terrible, c'est le mec provocateur de la rue, etc. Et du coup, Madonna, c'était la personne parfaite.
Ouais.
Et du coup, 2021, c'est qui la nouvelle Madonna? C'est Lil Nas, dans le sens où il représente toute cette queer culture.
Ouais, très provoque.
Très provoque et très pop.
Ouais.
Tu vois. Et aussi, il a un œil aussi pour tout ce qui est fashion, un sens qui parle à Gaultier. Et du coup, on a décidé de faire une collab et c'était super cool. Et au-delà de ça, c'est aussi raconter des histoires. Tu vois, c'est bien, t'as fait ta collab, mais comment tu vas la raconter aux gens?
Ouais, l'importance du storytelling aujourd'hui, c'est capital.
C'est ça, et surtout sur les réseaux sociaux finalement. Parce que quand t'as pas forcément de gros budgets comme des grosses marques qui peuvent raconter des histoires en faisant des films ou même dans la rue, tu vois, en faisant des activations, bah toi il te reste que les réseaux. Du coup tu dois raconter en fonction de comment tu vas raconter ça. Et ça c'était un peu mon travail là-bas.
Trop bien.
Et en même temps je suis freelance aussi. Et je fais des... Je fais de la DA et du stylisme pour des projets perso et des projets pro qui vont venir, je l'espère, l'année prochaine.
Yes.
Du coup, t'as fait vraiment le full switch dans la mode, quoi.
C'est ça.
Et vraiment, t'es partie à fond dedans, quoi.
Bah, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que aujourd'hui, tu vois, les gens, ils prennent beaucoup des gens issus de la diversité, tout ça et tout, pour faire de l'image, dans le sens être modèle, être dans un photoshoot, comme moi j'ai commencé, tu vois, avec Jean-Paul Gaultier. Mais il n'y a personne dans le staff, en fait.
Ouais,
moi,
j'ai bien aimé
que je suis passée de devant la caméra à derrière la caméra.
Et t'influences différemment, en fait.
Bien sûr.
C'est ça.
T'es là, tu contrôles la vision.
Ouais.
C'est ça, et c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est qui prend les décisions, finalement.
Ouais, pour que ce soit pas qu'un truc de surface, quoi.
Exactement.
Mais
tu vois, au final, heureusement que t'as rien trouvé pour ton stage. Parce que si tu
non, mais tires le fil, c'est ouf, ça. Hein. La boucle, elle est trop belle.
Ouais.
C'est ça. Et en fait, je me dis même que les gens, ils pourront voir de l'extérieur que être visiblement, en tout cas musulman, ça peut te fermer des portes. Mais en fait, non, ça t'ouvre des portes plus grandes, en fait, finalement.
Ouais. T'as pas lâché, il y en a qui auraient lâché.
Ah ouais,
ouais,
c'est sûr.
J'ai, en fait,
mais il doit y en avoir tous les jours.
C'est le sport,
hein, des
ça, c'est la mentale du sport aussi, non?
C'est plus la mentale de mon père.
Ok.
Non, dans ça, c'est une personne qui m'inspire de fou et je me dis que lui, il a pas lâché et que c'était plus dur avant. Tu vois, ouais, imagine. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de « ah, vas-y, on se follow, vas-y, je vais t'aider », tu vois, des trucs comme ça. Il n'y avait pas ça, il y avait « monte ton CV ». Aujourd'hui, dans la mode, ce qui est bien, c'est que le CV, l'école que tu as faite, au final, on s'en fout,
ouais.
Tu vois. C'est plus « ok, tu as fait quoi, tu connais qui ?» Tu vois.
C'est clair.
Justement, c'est quoi ta relation avec tes réseaux sociaux? Est-ce que, je pose la question, mais des fois, tu as des trucs négatifs par rapport à... Je sais pas, des DM ou des messages, c'est quoi? C'est quasi que bienveillant ou il y a quand même des fois des choses qui arrivent jusqu'à toi? Quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de discours de haine et tout. Mmh. Et comme toi, tu cristallises un peu bah, une certaine voilà, femme musulmane, mais ouverte en plus, je me dis que tu dois prendre des foudres un peu de temps en temps, non? Ou pas spécialement?
Franchement, pas spécialement. Parce que on est dans un domaine. C'est que j'aime bien ce domaine un peu créa où les gens, en fait, c'est le domaine le plus peut-être ouvert d'esprit, dans le sens où moi, peut-être que entre guillemets, ça a été facile pour moi, mais dans d'autres domaines, c'est impossible en fait. Mais je le vois vraiment, c'est impossible, impossible, impossible. Du coup, c'est pour ça que j'aime le domaine, enfin, de la mode et des arts, parce qu'il y a une certaine ouverture d'esprit et ça a toujours été comme ça pour n'importe quelle communauté d'ailleurs, tu vois. Et enfin, tous les domaines sont un peu c'est pas l'idéal, on va dire, c'est pas le paradis, mais c'est ce domaine là où c'est le plus, on va dire, ouvert sur ces questions là parce qu'en fait, ce qui est trop drôle, c'est que je peux être à ce poste là chez Jean-Paul Gaultier, par contre je peux pas être caissière chez Franprix.
Ouais.
Ça, il y a qu'en France où ça peut arriver, ça. Tu vois, là, je mets mon CV chez Fraperie, ils vont me dire non, on prend pas les gens qui portent le voile. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Par contre, je peux mettre mon CV chez n'importe quelle maison de luxe et ça peut passer. Tu vois, c'est un truc de malade.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai.
C'est vraiment en fonction du domaine que tu vas faire. Et voilà.
Non, mais ton parcours, il est hyper inspirant. Moi, je tenais vraiment à ce que tu viens de raconter tout ça. Je trouve
ça
fou.
Je me suis... En fait, moi, j'étais là dans l'optique où si j'ai commencé, je finis. Tu vois, c'est-à-dire que...
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, dans le sens où... sinon, tout ça, ça aura servi à rien. C'est ça que je me dis, si j'arrête maintenant... Ben, fallait arrêter au lycée en fait. Fallait arrêter au moment où on t'a dit tu peux
la
pas trouver de stage.
La première porte fermée. Quoi.
Tu vois, si t'as continué, bah tu continues jusqu'à la fin. Sinon, tous tes efforts avant auront servi à rien.
Mmh.
Et en même temps, en fait, moi, ce qui me pousse aussi, c'est les messages que je reçois où les filles, ça les a motivées de fou. Elles disent ouais, on n'a jamais vu ça. Moi, je pensais même pas pouvoir faire un stage avec mon voile. Et toi, tu travailles avec, c'est un truc de fou. Tu vois.
Ouais.
Et en fait. Me dit, il y a trop cette mentalité où maintenant les femmes musulmanes entreprenantes, elles font leur entreprise et ben elles prennent en stagiaire, tu vois, celles qui trouvaient pas de stage,
c'est hyper important,
ce truc là, et moi je kiffe trop en fait, tu vois,
la sororité, c'est vibe. Important, ouais.
C'est trop cool. Et en même temps, tu sais, quand je te disais au début que les darons, ils comprennent pas trop ou ils trouvent pas d'importance à ça. Bah en fait, mes parents et ma famille, ils ont été en fait impressionnés à partir du moment où il y a eu des articles en arabe, en fait, c'était trop drôle.
Arrête.
Tu vois, il y avait genre Vogue Arabia et Harper Bazaar Arabia qui ont fait des articles sur moi. Et en fait, tout de suite, quand c'est écrit en arabe, ça change tout, tu vois. Et là, tu sais, quand ça tourne sur FB et tout.
Ils ont envoyé à toute la famille.
Mais c'est ça, en fait. Et quand je suis rentrée, en fait, au Bled, ce qui les a choqués, c'est que les petites filles là-bas, elles allaient voir ma mère et disaient « Ah, t'es la mère de Taqwa et tout. »
Une star.
Et là, elle dit « tu vois, c'est quoi ?» Et en fait, elle s'est rendue compte que...
T'es la star des mariages, là, c'est bon, cet été, c'est fini pour toi.
Et d'ailleurs, c'est là
comment...
les demandes.
Ouais, hein. C'est comment les demandes en mariage en Tunisie, là.
Non, mais du coup, ce qui se passe, c'est que ça les a choqués parce qu'en fait, ils se voient que j'influence pas mon petit cercle d'amis, mais ça, en fait, ça va plus loin que
bien
ça.
Bien sûr.
Ça va même, en fait, chez les filles là-bas au bled qui veulent faire de la mode et qui sont à fond sur ce délire d'Instagram et tout, tu vois.
C'est trop bien.
Trop, trop bien.
Faudrait qu'on présente Saïf entre Tunisiens. Ouais.
Ah, de ouf.
T'as écouté
mais
le podcast
aussi. Mais tu sais qu'en plus, nous deux, on vient du sud, en fait.
Ouais.
On vient d'une ville qui est super à côté.
Vous vous connaissez ou pas encore?
Non, pas du tout.
Ah, faut organiser une rencontre.
On va organiser ça.
Ok, ok, j'aimerais juste bien qu'on parle d'un dernier petit sujet. Moi, c'est des filles que j'adore, je sais qu'elles sont très proches de toi, le Jdid Club.
Yes. Ben, en fait, le Jdid, c'est quoi? Déjà, ma chinoise n'est pas là, celle dans le groupe qui dit ce que Jdid, ça veut dire. C'est notre RP. Non, mais Jdid, en fait, de base, c'était une mentalité. C'était un groupe de potes et c'était la première fois où... En fait, c'est tellement important dans notre génération d'avoir des gens... sur lesquels tu te connectes, vous vous entraidez et vous êtes pareil. Tu vois, c'est trop dur de trouver des gens comme ça. C'est-à-dire qu'elles ont le même background que nous, tu vois, des parents.
Issus de l'immigration.
Issus de l'immigration, voilà. On a les mêmes règles, les mêmes...
Les mêmes valeurs, les mêmes mindset,
la même vision. Et en même temps, on est tous, en fait, dans ce délire-là. Dans le délire... de la musique, des arts, de la mode.
Et en fait, de vouloir faire des choses aussi.
C'est ça. Et en fait, de base, nous, on était des potes. Donc, 7 potes, 7 meufs dans des délires super différents. Mmh. C'est-à-dire que t'as une Aïda qui est
photographe, vidéaste.
Voilà, chez Yard. T'as une Katia qui travaille dans la musique. T'as une Lina qui a fait... Elle devrait venir ici aussi, Lina.
Je lui avais demandé qu'elle vienne avec toi.
qui fait vraie meuf et qui fait...
Tu fais un podcast super qui s'appelle La Taille aussi, que je recommande.
Trop, trop cool. Et en fait, j'aime bien dire on est des Avengers, tu vois. On est toutes dans des, on est toutes dans des domaines...
Ah, c'est bon.
C'est ça, on est toutes dans des domaines différents. Toute maghrébine dans des domaines différents. Et en fait, de base, on était potes, on ridait ensemble, on allait dans des trucs ensemble et on s'aidait en fait parfois ensemble. Mmh. Ah, vas-y, Aïda, j'ai besoin de ça dans un shoot, viens m'aider, etc. En fait, on s'est dit, bah, venez, on fait vraiment un studio créatif ensemble. Et c'est rare, en fait, surtout des meufs qui font ça, tu vois.
C'est clair.
Et du coup, on a décidé d'appeler ça le Jdid Club. Parce que tu vois, Jdid, ça veut dire nouveau en arabe. Et ça veut dire, en fait, ça a plusieurs meanings, mais c'est surtout. Ce nouveau souffle, en fait, tu vois.
Jdid, quand c'est utilisé dans la strip culture, c'est cool, quoi.
C'est nouveau, c'est stylé.
C'est frais.
T'es frais. Petit outfit,
Jdid. C'est ça. Mais du coup, on a décidé de faire plein de projets ensemble et de travailler ensemble. Et en même temps, c'est aussi partager ces valeurs-là que, voilà, faut que notre génération elle travaille ensemble, surtout les meufs, et de faire des projets cool ensemble, et qu'il n'y a que comme ça qu'on va avancer. En fait, parce que voilà, nous, on se passe les plugs entre nous, s'aide entre nous. Enfin, on se dit, ben, ce
on
monde et cette
quoi.
Société ne va pas nous aider, donc autant nous aider entre nous et on va y arriver ensemble.
C'est beau. Franchement, moi, j'adore ce que vous faites, j'adore l'énergie de ce groupe.
Merci.
Vous êtes cool, vous êtes Jdid.
On est Jdid. Mais du coup, tu sais, maintenant, on reçoit plein de messages où les gens, ils veulent qu'on leur mette un Jdid tampon. Genre, est-ce que t'es Jdid ou pas, tu vois?
Arrête, le stem,
la validation.
Et je te jure, et genre, on reçoit des messages en mode, est-ce que je peux être un Jdid? Est-ce que moi aussi, je suis Jdid et tout, tu vois?
Putain, attends, on est Jdid, nous, moi, j'espère.
Non, vous êtes Jdid, vous, c'est bon. Je vous valide, vous êtes Jdid.
Bon, écoute, merci. On va peut-être finir avec notre petite question gimmick qu'on pose à tous nos invités. Tu réponds du tac au tac, si tu peux.
Attends.
Prépare-toi.
Le meilleur conseil qu'on t'ait donné, ou est-ce que t'as toi un conseil à passer, un truc qui te nourrit, qui te guide, toi?
Un conseil, je dirais, c'est un conseil qu'on m'a donné, c'est de pouvoir parler plusieurs langues dans une même langue. C'est-à-dire, on parle tous plusieurs langues. Moi, je parle français, je parle arabe, je parle anglais. Mais le plus dur, est-ce qui va nous différencier, en tout cas? C'est de parler plusieurs français dans un français. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le français que je parle aujourd'hui autour avec vous. Il y a le français que je parle avec ma famille, avec mes amis. Il y a le français que je parle avec...
Mes collègues,
avec mes boss. Il y a le français que je vais parler chez quelqu'un, le français que je vais parler chez un autre. Et en fait, c'est ça qui va nous différencier aujourd'hui autour de la table. parce qu'on vient de tellement de cultures et de milieux différents. Mmh. Et en fait, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Et c'est pas avoir plusieurs masques ou être vendu ou quoi. Non, c'est une force. Et
c'est le côté caméléon, pouvoir
s'adapter. C'est le côté caméléon que les autres n'ont pas. Et du coup, faut qu'on le garde. Et c'est ça qui va nous différencier de tout le monde, en fait. Aujourd'hui, moi, autour de la table, vous... quand vous allez être dans une réunion ou autre, dans une grande entreprise, je l'espère.
Ouais, on connaît les switches.
C'est ça, les switches, tu vois, quand tu sors.
La voix du téléphone.
C'est ça. Et autour de la table, et en fait, eux, ils vont savoir parler qu'une seule langue. Partout, tout le temps, de la même façon. Et toi, ta richesse, c'est de... Aujourd'hui, je vous parle comme ça à vous, mais je peux parler à je sais pas qui, à ci, à ça, à ça. Et généralement, tu vous as remarqué... quand t'es dans une boîte où il y a la majorité des gens sont blancs comme la majorité des boîtes, quand il y a une autre personne extérieure qui va venir, par exemple de l'étranger ou issue de l'immigration, on va te faire venir en premier. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais parler plusieurs langages et plusieurs. T'es un caméléon.
T'as différents codes quoi. Ouais,
c'est ça.
Ouais. Ouais. Ouais.
Autre petite question. Est-ce que t'as un talent caché?
Est-ce que j'ai un talent caché? Franchement, mon talent caché, c'est la RATP. Hein. Je te jure, tu m'appelles, tu me dis, ouais, t'as quoi, je suis rue.
Tu peux prendre ton numéro. Elle a aucun sens de la
rotation. Je suis rue, je sais pas quoi, je te dis, tu me dis, t'habites vers où là? Je te dis, tous les bus et tous les métros qu'il y a à côté de chez toi.
Moi, il y en a qu'un, Bir Hakeim.
Ah ouais, putain, mais t'es vraiment dans la zone la pire du monde.
Ah ouais, bah
il y a zéro bus, zéro truc là-bas. T'as le RERC, c'est tout.
Il adore.
J'adore. Je vais être seule.
C'est quoi ton guilty pleasure? Petit plaisir coupable.
Le matcha.
Ah, ça va, c'est healthy comme...
Le matcha, j'adore ça.
Ouais,
vraiment.
Je te comprends.
En tiramisu, en boisson, en gâteau, en cookie, en tout. C'est ma drogue.
C'est vrai que c'est bon.
C'est quoi l'emoji que tu utilises le plus?
En fait, vous savez, quand vous utilisez un emoji au début pour ironie et qu'au final c'est plus d'ironie parce que tu l'utilises tout le temps.
C'est quoi?
C'est celui-là qui rigole, mais genre en mode penché.
Ouais,
tu vois.
Ah ouais,
moi aussi, ça m'a fait ça. Au début, je le mettais en mode pour pas être sérieuse.
C'est
et maintenant,
ça.
Je le mets,
et je le mets tout le temps. Ouais. Maintenant, même quand je rigole, je mets ça. Et avec la tête de mort aussi.
Dead.
Au début, j'étais là en mode, tu vois, c'était un emoji pour dire la mort et tout. Maintenant, je le dis pour rigoler, tu vois, tout le temps.
Je suis dead, je suis mort. Moi, je me moque beaucoup des gens. Genre, je vois plein de gens qui vont. Tu parles avec eux, ils veulent rire, genre, ils veulent te dire que c'est drôle. Ils disent, je suis mort, mais genre, avec cette tête.
Ouais,
tu sais, je dis, mais si t'es mort, rigole.
Ça jette ça.
Tu sais, oh, je suis mort.
Ah, je mets l'emoji de tombeau aussi, tu vois.
Ah, ouais, pas mal.
Le cercueil là, je mets ça aussi.
Le dernier compte Insta que t'as suivi?
Attends, je vais te dire tout de suite le dernier compte Insta que j'ai suivi. Pas de fake news, je te le dis, attends.
Pendant que tu cherches, je réencourage tout le monde à aller suivre le compte Instagram de Cast Podcast.
Ah
très
oui,
important.
J'aime quand tu fais la promo. Partagez aussi, parlez-en. Faites la promo.
Le compte, attends, je vais te dire. Le dernier compte que j'ai suivi, c'est d'une fille qui travaille chez Gentle Monster, qui est une de mes marques préférées.
Ah, j'adore cette marque. Hein.
Bah, mes lunettes, c'était ça.
Ouais.
Tu vois, c'est vraiment une
tu
marque...
Tu bosses avec eux, c'est des tueurs. Ils sont trop forts.
C'est une marque de fou. Et j'ai hâte qu'ils font leur store à Paris parce que c'est vraiment c'est une expérience, en fait.
Ouais.
C'est une expérience de fou d'aller dans un magasin. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans la mode. Il n'y a plus d'expérience, en fait.
Un pote à nous, il parlait du magasin de Singapour, je crois, ou de Hong Kong, qui est incroyable.
Déjà, si le magasin de Londres et de Dubaï sont incroyables, alors là-bas, j'imagine même pas. Ah. En fait, c'est un mix, ceux qui connaissent pas, c'est un mix d'art, de robotique, d'intelligence artificielle. Et en fait, ils vendent des lunettes de base.
Ouais,
mais c'est un mix
cool.
De tout.
Je crois, dans le magasin dont il me parlait, mon pote, il y a un bout d'un télescope, enfin un truc où...
C'est ça.
Ouais, un truc de fou, un c'est truc ça. Technologique de ouf.
Et ils font du coup des collabs avec plein de maisons et de marques qui sont malades.
Trop cool.
C'est moi qui finis. Est-ce qu'il y a une tendance mode que t'as jamais comprise?
Tendance mode.
T'as dit, ouais, c'est quoi ça?
Ou que tu refuses de porter.
J'ai dit, ah non, ça, never.
Les Clarks.
Non, mes... je peux pas te laisser dire ça.
Toutes mes potes, elles ont des claques. Et je dis non, je vais pas. C'est mort.
Mais c'est une petite paire de Warabies. C'est un classique de la street. Tu peux pas me dire ça.
Déjà, les Crocs, j'ai dit ok. Tu vois,
les Crocs, c'est ça.
Moi, je porte des Crocs maintenant. Tu vois. Mais au début,
ça va venir. Dans ce cas, ça va venir.
Les Crocs, c'est bon, on m'a contaminée. Mais les claques, c'est les Santiago aussi, tu vois. Je suis pas encore dedans.
Pas encore ? Ah, pourtant, je te vois bien avec des Santiago, toi.
Ouais, mais je sais pas. Les claques, c'est les Santiago. Je résiste encore.
Pas encore.
Claques, il faut sponsoriser, là. Il faut lui changer sa vision. Envoyez-lui une paire, là. Une petite paire de Wallabies classique noire. Suède.
Mais t'es payé, c'est pas possible.
On adore.
Bon, alors, merci beaucoup, Takwa. C'était trop cool de t'avoir.
Merci à vous.